Chapitre 11. Les labours de Picardie. Le lendemain, ayant nourri ses bêtes, il enjuga soigneusement ses quatre meilleurs bœufs, avec les joues à poignées rouges, bien résolu à quitter le pain fendu si on l'obligeait à changer sa belle mode nivernaise, et, ayant arrêté son harnais devant la porte de l'habitation du contremaître, il alla, comme les autres bouviers et les domestiques, chercher des tartines de pain beurré et un litre de bière qu'il mit dans une vieille carnassière que l'un de ses camarades lui prêta, et il partit pour la plaine. Helmand, d'après les ordres du fermier, avait distribué le travail aux hommes et aux bêtes assemblées. Ce fut un dur labour, loin, du côté du courant de Carouble, qu'on pouvait reconnaître à quelques saules nains et à des herbes, seul vert avec celui des choux, dans l'espace que blondissaient à l'infini les chaumes des avoines et des blés. Vaste plaine qui avait désappris l'ombre. La terre, sèche depuis des mois, ne s'émiettait pas sous le soc. Elle venait en mottes longues comme des poutres, elle se couchait en travers de la charrue, elle laissait échapper des cris, de la poussière, une fumée âcre, et les mulots et les insectes, n'ayant pu creuser assez avant leur repaire, coulaient sur les sabots de l'homme avec les racines éventrées du froment. À petite distance de Gilbert, d'autres attelages labouraient. Mais il s'arrêtait plus souvent que le sien et plus longtemps. Il n'était pas 10 heures du matin que l'espace labouré par les quatre bœufs de Gilbert faisait, dans le jaune éteint des chaumes, une tache d'un tiers plus large que les autres et fumante comme un canal vaseux fouillé par le soleil. « Beau travail !» dit Helmand qui passa, chaussé de bottes, un chapeau de paille sur la tête. « Mais vos bœufs seront fourbus avant la huitaine. » « Ni eux, ni moi, » répondit Gilbert. « Nous verrons quand va venir l'arrachage des betteraves. 50 hectares, 1 500 000 kilos à transporter avant le 15 novembre. » Le patron continua son chemin, diminuant dans la plaine, mais toujours plus grand que les bouviers auxquels, un moment, il parlait. Le soir, il n'était question, au pain fendu, que de ce bouvier nivernais et de ses bœufs. Gilbert entendait son nom, à table, murmuré, loué ou moqué. Il mangeait, plus las un peu que la veille et un peu plus étranger. Après le souper, il se remit à fumer, à la même place, près du poêle. La femme du contremaître n'avait fait aucune attention à lui, occupée qu'elle était à servir les hommes et à répondre au bavardage des servantes qui parlaient de leurs projets pour le lendemain dimanche. Mais quand les hommes se furent retirés, elle s'approcha de Gilbert, comme elle avait fait la veille, et, se tenant debout auprès de lui qui était assis, « Et vous ? » demanda-t-elle. « Que ferez-vous de votre journée de demain ?»«
Rien, madame Helmand. »«
Vous n'allez pas à la messe ?»«
Non. »
Elle mit sa main sur l'épaule du bouvier d'un geste compatissant.
« Vous avez l'air malheureux, monsieur Cloquet. » « Un bon travailleur comme vous, c'est le pays qui vous manque ?»«
Non. »«
Si vous êtes malade, on n'est pas dur ici. Vous serez bien soigné. Il faut le dire. »
Elle se sentit regardée d'en bas comme par un chien qu'on caresse. Elle vit dans cette lueur longue du regard qui montait une surprise, une reconnaissance, une émotion, un désir que ce ne fut pas fini. Elle se mit à rire.
« Allons, quand vous aurez passé seulement une semaine ici, vous serez tout habitué. Vous n'êtes plus un jeune homme et on vous prendrait pour un grand enfant. Mon pauvre Cloquet !»
Elle s'éloigna, portant une chaise qu'elle voulait remettre en place et déjà reprise par le travail. Gilbert s'était levé. Il sortit sans se retourner, il descendit le perron, il fit le tour du parc où les bœufs rouges tournaient sur le fumier, et il se réfugia tout au bout de l'enceinte de la ferme, près de la forge dont le feu était mort. Et il s'assit, passant ses deux mains sur son front, pour chasser la vision trop douce et les mots qui revenaient. « Mon pauvre Cloquet !» Comme elle avait dit cela. Oui, comme autrefois le disait Adèle Mirette, la femme qu'il avait aimée, celle qu'il eût aimée surtout à cette heure d'abandon.
C'était le même accent et le même geste, et dans le regard, la même tendresse pure.
« Mire-toi dans mes yeux, mon Cloquet, mire-toi, je souffre quand tu souffres. »
Oh, quel vieux mot, plus jamais réentendu pendant de si longues années, et qui ressuscitait tout à coup dans le souvenir du passé et qui lui noyait le cœur. Elle était si jolie, cette Madame Helmand. Gilbert entendit des chevaux qui se battaient dans l'écurie voisine et il y courut, jurant comme il ne faisait point d'habitude, et d'un coup de courroie double, il les sépara si brutalement qu'il se dit « Qu'est-ce que j'ai ce soir à faire du mal aux bêtes ?»
Le lendemain, dimanche, lui, si économe, il sortit, dès que les bêtes eurent été soignées, déjeuna et dîna dans un estaminet d'Auningue et ne rentra à la ferme que pour la nuit. Toute la journée, il avait erré, seul, comme un soldat qui arrive dans une garnison, sur la route de Valenciennes et dans les quartiers enfumés qui avoisinent la gare. Bientôt, les pluies commencèrent à tomber. Les grands labours, pendant des semaines, occupèrent et lassèrent les hommes, les chevaux, les bœufs. Le jour se leva plus tard et s'abîma plus vite dans les brouillards qui se tenaient tout l'après-midi, roulés à petite distance des champs où l'on travaillait et qui déferlaient dès que le soleil faiblissait. Puis l'époque vint de récolter les betteraves. Dans les terres détrempées, Gilbert et ses camarades conduisaient maintenant les chariots à quatre roues, remplis de betteraves, jusqu'à la sucrerie d'Auningue. Les six bœufs nivernais n'étaient pas de trop pour arracher la voiture aux ornières que l'énorme poids creusait sous le cercle de fer des roues. Il fallait s'arrêter pour faire souffler les bêtes. « Que cherches-tu à l'horizon, Cloquet ? C'est-il des arbres ? Il n'y en a point chez nous. C'est-il ta bonne amie ? L'heure est passée, mon vieux. C'est-il un verre de bière ? Ça se trouverait plus près de toi. » On le plaisantait prudemment à cause de son air peu commode. On essaya de l'interroger pour voir ce qu'il savait du monde, mais il ne s'y prêta pas davantage. Après quelques essais inutiles pour le faire parler du pays de Nièvre ou d'autre chose, ses camarades renoncèrent à troubler sa songerie ou à l'expliquer. On le considérait comme un de ces bergers qui perdent l'usage de la parole peu à peu et qui vont seuls, ne sachant causer qu'avec les moutons et les chiens. Ce qu'il avait, une idée fixe et mauvaise le possédait. Gilbert aurait mieux fait de quitter la ferme. Il s'en était parlé à lui-même deux ou trois fois, mais la volonté lui avait manqué. Il se sentait faible, il restait, et il se cachait pour voir passer la femme de Jude Helmand. La fermière n'avait pas l'air de s'apercevoir de l'étrange allure de cet homme qui la guettait soir et matin. Il ne s'approchait pas, il la regardait traverser la cour, ouvrir une fenêtre, accompagner un marchand ou un visiteur. Quand il était près d'elle, au repas, il était gêné et ne levait les yeux qu'à la dérobée, puis, sitôt la dernière bouchée de pain avalée, il sortait. Depuis qu'elle vivait au milieu de ce personnel flottant de domestiques et de journaliers, elle avait souvent été obligée de se défendre de l'un ou de l'autre. Mais celui-là était d'une espèce nouvelle, plus sombre, plus inquiète. Que faire ? Elle avait, dès le deuxième jour, compris qu'il y avait de la passion dans le silence de Gilbert Cloquet, et elle évitait de donner des prétextes à ce mauvais rêve, mais sa manière n'en était point changée, et Madame Helmand restait aussi gaie, aussi vive et naturelle devant le bouvier que si elle n'avait rien deviné. « Si je le fais renvoyer, pensait-elle, où ira-t-il » Un jour, cependant, elle l'appela. C'était dans la troisième semaine d'octobre. Un boucher de Quiévrain vint au pain fendu. Dans le couloir de la maison, il parlementa bruyamment avec la femme du contremaître. C'était un ami et un habitué de la ferme. Il achetait quelquefois. Il s'informait des prix et de l'état du bétail. Il s'appelait Jean Gourmel, gros homme, jeune, qui jouissait d'une grande réputation de fortune, de loyauté et d'entrain dans les affaires, et qui avait une espèce de puissance joviale et d'aisance faite de ce bon renom dont il marchait enveloppé. Madame Hellemans était seule à la maison. Le mari ne rentrerait pas avant midi. Elle offrit un verre de bière au boucher belge qui refusa de la main et qui demanda à visiter les étables. La jeune femme l'accompagna jusqu'à l'entrée du couloir, jeta un regard dans la cour comme si elle cherchait quelqu'un, dit quelques mots tout bas à M. Hourmel et appela de sa voix un peu traînante.
« Monsieur Cloquet !»
La barbe fauve et les yeux clairs du Nivernais s'encadrèrent dans l'ouverture d'une lucarne.
« Monsieur Cloquet, faites donc faire à Monsieur Hourmel la visite des étables !»
Le boucher, qui portait sur le bras une peau de bique grise et qui n'avait point de blouse par-dessus sa jaquette, comme en ont la plupart de ses confrères du centre ou de Paris quand ils voyagent, s'arrêta d'abord en face de Gilbert et considéra le bouvier avec une attention soutenue, sérieuse et muette. Sa physionomie joviale s'était détendue. Une petite moue relevait les moustaches coupées ras. Il termina son examen par un hochement de tête dont il garda pour lui-même le sens et suivit Gilbert qui connaissait la ferme à merveille et pouvait l'expliquer. Le premier moment de mutisme passé, la conversation fut abondante entre les deux hommes que le métier rapprochait l'un de l'autre. Ils parlèrent de France et de Belgique, de pâturage et de commerce, et Gilbert se laissa aller à raconter sa jeunesse et la formation des syndicats de bûcherons de la Nièvre. L'autre approuvait. « Connu, chez nous, de même. Seulement, vous me paraissez être sans religion dans votre pays. Elle ne nous gêne pas. Nous, elle nous aide. » Un peu plus tard, il dit. « Il faudrait que vous veniez me voir, Gilbert Cloquet. » Il était bonhomme, ce boucher de Quiévrain. Il était fraternel avec le bouvier inconnu rencontré à la ferme. Il avait la force qui n'a pas besoin de mots pour attirer et la pitié qui se devine même quand elle plaisante. « Vous avez besoin de distraction à ce que je vois. Eh bien, venez à la Grande Ducasse. »« Qu'est-ce que c'est ?»« La fête patronale de Quiévin, la dédicace, la Ducasse comme on dit chez nous. » et qui a lieu le dimanche qui suit le 18 octobre, dimanche prochain, autant dire. La ménagère mettra votre couvert. « J'irai donc, » fit Gilbert. Le dimanche 21 octobre fut pour lui un jour de répit et presque un jour joyeux. Vers 10h30, le bouvier prit à Onnain le tramway qui vient de Valenciennes et en une demi-heure, il était en Belgique. La maison du boucher fut aisée à trouver. On n'avait qu'à suivre les rails, un bout de rue qui monte, un autre qui tourne à angle droit, et c'était là, sur la droite, à peu de distance. Une porte de chêne vernie, à côté de l'étal, un salon qui servait de salle à manger, une cuisine derrière, puis une cour et des magasins. La maison avait bon air. Les hôtes recevaient Gilbert comme un ami, et Madame Hourmel, une grande mince, aux joues plates, aux yeux doux et inquiets d'inquiétude ménagère, faisait des frais comme pour un prince. « Asseyez-vous, vous prendrez bien une tasse de café. Préférez-vous de la bière ?»« Dis, Hourmel, remets donc du charbon dans le poêle. Monsieur Cloquet doit avoir froid. » Le pauvre, depuis longtemps, n'avait pas connu cet empressement de deux êtres appliqués à le recevoir, à le soigner, à l'égayer. Dans la salle, les pieds allongés et fumants contre la salamandre nickelée de Madame Hourmel, il admirait le papier à fleurs qui couvrait les murs, les chromolithographies pieuses encadrées, des vide-poches données en prime par quelques magasins, deux têtes de chamois en terre cuite, des chaises de chêne blanc cirées, un buffet à deux corps et dont la vitrine était pleine de vaisselles multicolores et d'objets inutiles dans un modeste ménage, pinces à sucre, à asperges, pelles à poissons, cuillers de tout modèle et de toute taille, coupes et corbeilles en métal brillant. Il admirait. On lui racontait les histoires de Quiévrain. Il oubliait la sienne. On resta longtemps dans la chaleur du poêle. La femme du boucher avait deviné que le Français avait de grandes peines et qu'il était sans aide morale d'aucune sorte. Elle dit sérieusement, car elle avait une sorte de bonté grave et égale. « Je vais aller servir la clientèle pendant que vous ferez un tour de Ducasse, Ourmel et vous. Mais je vous prie, désormais, de considérer la maison comme celle d'un de vos amis. » « De mon ami, alors, répondit Gilbert, car je ne m'en connais point, à moins que je n'appelle ainsi M. Michel. « Vous n'avez pas d'amis, ni homme ni femme ? Oh si, vous rougissez ! Ah, ce n'est pas bien de nous avoir caché cela ! Un Français, ça ne vieillit pas. Nous aurions dû nous le rappeler. Amusez-vous. » Les deux hommes passèrent un après-midi d'enfants, Gilbert empruntant un peu de gaieté à l'humeur joviale du boucher Ourmel. Ils tirèrent à la carabine, ils assistèrent au jeu du papeguet dans un pré au bord de l'Aunelle, ils virent danser les ouvriers et les ouvrières du Quiévrin et de Blanc-Misseron, visitèrent des amis qui offrirent du café, et quand ils se quittèrent, le soir, tard, à l'arrêt du tramway, après avoir soupé ensemble dans le petit salon aux têtes de chamois, ils étaient de belle humeur et contents de s'être connus. Ourmel demanda « Au revoir, n'est-ce pas ? Combien restez-vous de temps encore au pain fendu ? Peut-être 8 jours, peut-être toujours. Mais si j'y reste, je reviendrai ici. » « En tout cas, avant le 17 novembre, fit Ourmel, car je vais en voyage à ce moment-là. » Et le tramway s'enfonça dans la nuit vers Onnain.